Ce cours dédié à la Refoua Shlema de Nejma Johanna Bat Brigitte Shoshana dans la collectivité des malades d'Israël. Amen. Je vais vous poser une question. Aujourd'hui, dans les séminaires, on démontre de façon irréfutable et rationnelle, scientifique, comme quoi la Torah est d'origine divine. Elle, avec toutes les lois qu'elle contient. Comment on le fait? Deux biais, en gros. On compare les découvertes scientifiques et les connaissances qu'il y a dans la Torah. C'est une partie du séminaire. Et l'autre partie, c'est au niveau des prophéties. On voit que le programme de l'histoire est marqué d'avance de façon extrêmement claire. Pas d'interprétation outrageuse, noir sur blanc, tout bêtement, de façon tout à fait inhumaine. Aucun être humain aurait pu rationnellement prévoir cela à l'avance, il y a quelques millénaires, à l'époque où la Torah a été écrite d'après la datation des non-juifs. Même si on prend l'hypothèse de datation des non-juifs. Une question qui est très souvent posée, que je vous pose maintenant. Ok, ça c'est valable aujourd'hui, on a la science, on a le recul de l'histoire qui nous montre que tout a été prouvé, mais nos ancêtres, il n'y a pas tellement longtemps, nos grands-parents, et pour autre raison, tous nos ancêtres depuis des millénaires, qui étaient prêts à se jeter au bûcher pour ne pas quitter la Torah. Est-ce que c'était une foi aveugle ou ils avaient des preuves? La réponse, ils avaient des preuves. Parce que la Torah interdit de croire. Bêtement, elle dit, tu sors aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur. Il y a un canular terrible dans le peuple juif, je suis content d'en parler ici, peut-être on nous écoute sur Internet, il y a un canular terrible qui se balade dans le peuple juif. Naase venishma. On fera, après on comprendra. Les gens, ça c'est marqué dans la Torah, mais les gens ont traduit ça, fais, après tu comprendras. Papa, pourquoi on ne doit pas allumer la lumière Shabbat? Fais, après tu comprendras. Pourquoi on doit manger kasher? Fais, après tu comprendras. Les générations de tordus passent de génération en génération parce que le gosse n'a pas reçu de son père, donc il devient père, dit à son gosse, fais, tu comprendras. Et on est des générations qui n'ont jamais rien compris et qui font. Ils font, ils ont toujours rien compris. Vienne une génération un peu plus intelligente qui dit, ok, j'ai fait, je comprends toujours pas. Alors, je ne fais plus. Et c'est complètement anti-juif. Dieu m'a donné la chose la plus belle qui est ma conscience. Qui est ma, je peux poser la question, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est? Tu me demandes, réintègre la condition singe, prends un scalpel, tu te coupes maintenant l'esprit, tac, tu deviens fait, un robot. Comprendras, ça viendra un jour. La grâce t'aura touché, la science infuse qui va tomber dessus. C'est intolérable de dire ça. Et les jeunes posent des questions, ils ont des fois honte de poser des questions, des familles religieuses, des fois j'ai vu. Ils posent des très bonnes questions, pourquoi Dieu a créé le monde? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Pourquoi Dieu y fait ça? Qu'est-ce qu'est notre but sur Terre? Les questions, que si on n'a pas les réponses aux questions, on passe à côté de la vie. On devient des machines à dire Gmara, des machines à mettre des filines, des machines à manger cachère, des machines à faire des brachot, des machines. T'es pas une machine. T'es à l'image de Dieu. Et le Rambam dit très clairement, notre image de Dieu, c'est quoi? C'est notre date, c'est notre conscience, le fait qu'on pose des questions. Et plus on développe ça, plus on se branche avec Dieu. Tu me dis, fais, après tu comprendras. C'est inhumain. Vraiment inhumain. À la Torah, elle dit, Naase venishma. Bnei Israël, au pied du Mont Sinaï, ils ont dit, on fera, même sans comprendre, après on comprendra, mais c'est quand ils ont su que Dieu leur donne la Torah. Quand je sais que Dieu vient me donner la Torah, ok, je ne sais pas tout le pourquoi, mais Dieu, je vois clairement, c'est Dieu qui se dévoile. Ok, mais je n'ai pas tout compris. De bon Dieu, de Dieu, clairement je vois que c'est Dieu, je prends, sans comprendre. Mais je sais que ça vient de Dieu. Maintenant, quelqu'un, il dit, prouvez-moi que la Torah est vraie. Non, il faut que tu crois aveuglément. C'est anti-humain, c'est anti-juif. La Torah dit très clairement, on le répète trois fois par jour, Veya data, tu sauras aujourd'hui, va chez Votel, après tu ramèneras à ton cœur. Donc il y a deux étapes, savoir et après croire, parce que tu sais, je sais que c'est mal de fumer. Mais croire, ça veut dire que je suis incapable de prendre après une cigarette. Beaucoup de gens savent, mais au niveau de la croyance, d'accord, la foi, là, c'est-à-dire vivre la chose totalement, ça y est un travail de hachava et la lèvre, de ramener au cœur. La première étape numéro 1, via data, tu sauras. Savoir, c'est voir. Quelqu'un qui croit que Dieu existe, quelqu'un qui croit que la Torah est vraie, une croyance. Un bon élève dit, je ne crois plus, je n'ai plus la foi. Il y a une tulle qui tombe dessus, pourquoi Dieu m'a fait ça? Je ne peux plus croire en Dieu. Si on n'a pas un fondement qui est rationnel, prouvé, alors c'est très dangereux. La Torah dit qu'il faut savoir qu'il faut des preuves. Ma question, messieurs, quelles preuves? Quelles preuves avaient nos ancêtres? Nous, on a aujourd'hui, Baruch HaShem, une collection de preuves. Quelles preuves qu'avaient nos ancêtres? Quelqu'un a-t-il la réponse?
Vous dites que chacun a sa preuve. Il y a des personnes qui ne pourront pas vous démontrer.
Ils sentent très fort.
Comme beaucoup avec moi, je le sens de la même manière que quelqu'un.
Et un palestinien shahid qui se sent dans un bus, il sent aussi qu'il y a 72 vierges qui l'attendent là-bas. Il ne ferait pas une bêtise pareille s'il n'était pas convaincu qu'il y a 72 qui l'attendent maintenant en train de danser. Et pourtant, il sent.
La survie,
hein?
La survie.
Ça, c'est une preuve aujourd'hui que pendant 3000 ans, le peuple d'Israël a survécu. Après toutes les affres de l'exil, on est toujours là, on est revenu en terre d'Israël. Ça, c'est extraordinaire, tu as raison. Je te parle il y a 2000 ans, avant l'exil. Qu'est-ce qui s'appelle de père en fils? Oh, très bien. Notre cher Meir Yitzhak donne la bonne réponse. Ma'amad Har Sinai. Ça, c'est la preuve que donne la Torah. Ça veut dire, Maïmonide ici, dans le chapitre 8 des lois relatives aux bases de la Torah, va dire qu'on a une preuve. Si Maïmonide dit qu'il y a une preuve, c'est-à-dire qu'il faut une preuve, et que nous ne sommes pas des croyants aveugles. Je vous cite Maïmonide. Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, l'Oeminu bo Israël mipnei otot shasa. Israël n'ont pas cru en lui à cause des miracles qu'il a fait. Regardez un peu le cran. Moshe vient, et il dit, écoutez les juifs, Dieu m'a parlé. Les juifs disent, qui me dit? Oh, t'as vu un peu ce que je t'ai fait comme miracle? Je touche le Nil, changé en sang. Je frappe la terre, changé en poux. Je lance un peu de cendre dans le ciel, obscurité. Je fais comme ça, tous les premiers-nés, à la même seconde, tac, ils meurent. Un petit coup dans la mer, s'ouvre en deux. Un petit coup, se remet. Tous les matins, petit déjeuner au lit, ça descend du ciel. Je frappe le rocher, t'as de l'eau. Donc, tu vois qui m'a envoyé? C'est quand même assez clair, non? Ils lui font comme ça. Écoute, moi, on est gens sérieux. Tu veux qu'on croit en toi? Ce que j'ai vu, je crois. J'ai vu que tu ouvres la mer, j'ai vu que tu descends petit déjeuner, très bien. J'aimerais un continental, s'il te plaît, peut-être on peut changer le menu. Mais t'as un pouvoir. T'as un pouvoir surnaturel. Fantastique. Mais qui me dit que Dieu t'a envoyé la Torah? T'as un pouvoir. Dans ma jeunesse, il y avait un. Il était juif, je pense. C'était il y a 30 ans, 40 ans, un type qui s'appelait Uri Geller. Il tordait les fourchettes à distance. Hein, tu prends une cuillère comme ça, puis bzzz, tu coupes ça. Il a un pouvoir, peut-être Dieu l'a envoyé aussi, la Torah d'Uri Geller. C'est pas parce que quelqu'un a un pouvoir surnaturel que Dieu l'a envoyé, que Dieu l'a transmis. La Torah, ça veut dire le sens du monde. Et en plus, Moshe, t'as été éduqué où? Dans la maison de Pharaon. C'est marqué dans la Torah que les deux premières plaies des 10 plaies d'Égypte, les sorciers aussi ont réussi à faire. Ils ont réussi à changer de l'eau en sang et à faire les... les fardim, les grenouilles. Donc toi, tu es un juif, on sait bien, les juifs, ils prennent des trucs, hop, ils font en mieux. D'accord? Alors, toi, tu as récupéré leur combine, tu as vécu chez eux, tu as bien pris tous les trucs et tu as amélioré. Ils ont fait 2, toi, tu as fait 10. Tu es un super sorcier, mon cher Rabbeinu. Alors, on te croit pour tout ce que je vois, c'est vrai que tu as un pouvoir surnaturel, ça je te crois, le petit déjeuner, je le mange, il est très bon. Mais ne me dis pas que Dieu t'a envoyé. Maïmonide. On n'a pas cru à Moïse à cause des miracles qu'il a fait. Car celui qui croit à cause des miracles, il a dans son cœur Dofi. Dofi, c'est deux bouches. Un sentiment équivoque. Peut-être c'est vrai, c'est Dieu, mais peut-être c'est faux. Chef Char, car il se peut, Sheyaseh Haot Belat Vekishuv, qu'il a fait ce miracle par des pouvoirs de sorcellerie, des pouvoirs paranormaux. Il a un pouvoir. T'as pas des fakirs qui font de la lévitation ou se tiennent sur des morceaux de verre et des charbons ardents, t'as pas des gens. Ok, alors t'es un fakir. Mais tu me donnes la Torah du monde, pourquoi le monde existe? On ne veut pas être des croyants. Parce qu'un croyant, peut-être il se trompe. Ah, je sens, peut-être je me trompe. Les plus grands croyants du monde étaient des gens dangereux. Les gens croyants sont des gens dangereux. Pourquoi? Parce qu'au nom de leur croyance, leur croyance, d'habitude, elle est censée amener le bien au monde entier. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, avec sa croyance à lui, ce quelqu'un se trompe. Et ce quelqu'un fait le contraire de ce qui peut amener le bien dans le monde. Donc, de facto, ce type-là qui ne croit pas à ma croyance, à ma vérité, il est ennemi de l'humanité. Et pour le bien de l'humanité, je dois ou le convaincre de faire, l'obliger à faire ma vérité, ou le zigouiller, l'éliminer. D'où toutes les croisades. Toutes les croisades, même athées, Staline, hitlériennes, cosaques, chrétiennes, musulmanes, Bin Laden aujourd'hui. Ils se sont... Ils se regardent dans la glace, je suis quoi? Je suis un salaud ou un tzaddik? Bin Laden, dans son esprit, est le super-héros aimé, chéri de Dieu. Il y a Allah, Dieu, après peut-être Mohammed et Bin Laden. C'est certain. Hitler, il nettoie le monde de la vermine humaine, le peuple juif. Non, on veut maintenant une race pure, arienne, comme il faut. Il fait du nettoyage, c'est bien de nettoyer de temps en temps. Staline, il va enfin sauver les masses prolétaires de l'exploitation capitaliste bourgeoise. Personne part au nom du mal. Il part, il a une croyance qu'il fait le bien. C'est un croyant, c'est un homme dangereux. Nous ne voulons pas être des croyants. Nous voulons des preuves. Alors, nous dire à Maïmonide, alors pourquoi il a fait ces miracles, mon cher Rabbeinu? Si c'est pas pour amener une preuve comme quoi la Torah est vraie, pourquoi il a fait ces miracles? Tous les miracles qu'il a fait, mon cher Rabbeinu, les fait à Tzor et Hassan, parce qu'il y avait une nécessité de les faire. Pas pour amener une preuve de la prophétie que Dieu lui a parlé. Il avait besoin d'engloutir les Égyptiens, il a ouvert la mer, il les a engloutis dedans. On a besoin de se nourrir, il nous a fait descendre d'Aman. On a besoin de boire, il a touché le rocher et l'eau est sortie. Korach, ils ont fait les malins, il a fait l'ouvrir la terre et ils ont englouti. Et ainsi, le reste des miracles. Il y avait une nécessité, chaque fois il y avait une raison pour laquelle on va faire un miracle. Mais ce n'était pas une preuve comme quoi la Torah est d'origine divine. Que Moshe, ce qu'il dit, c'est Dieu qui l'a envoyé, pas une prophétie. Pas de preuve. Pardon ? Pour qu'enfin Pharaon accepte de faire sortir le peuple juif. On ne s'est pas sorti comme ça, s'il n'y a pas eu 10 plaies. Ubema et Minubo, en quoi ils ont cru en lui? On fait un petit sketch. Je suis Moshe Rabbeinu, vous êtes à Israël. Je vous dis, Dieu m'a envoyé. Vous me dites, on ne croit pas. Écoutez, cher juge, je suis prêt à vous faire ce que vous voulez pour prouver qu'effectivement Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce que vous me demandez? La preuve. Je vous ouvre le Mont Sinaï, je vous fais lever le Mont Sinaï, allez, sautez à la corde. Mont Sinaï qui saute à la corde. Ça vous va? Qu'est-ce que répondent les juifs? Ok, c'est très bien, mais c'est un pouvoir. Pouvoir surnaturel, très costaud. Le Mont Sinaï qui saute à la corde. Fantastique. Mais ce n'est pas encore Dieu qui t'a parlé. Quelle preuve vous demandez?
Montre-nous Dieu.
Extraordinaire. Tu me dis que Dieu t'a parlé, je veux le voir te parler. Je ne veux pas te croire, je veux voir. La connaissance, c'est voir. Je crois que derrière la porte, là-bas, il y a une table. Peut-être oui, peut-être non. Je vais voir, je sais. Il n'y a plus de croyance. Il y a une réalité que je vois. Bnei Israël demande à Moshe, tu me dis que Dieu t'a parlé, nous voulons le voir te parler. Moshe Rabbeinu, il va voir Dieu, Dieu lui dit, très bien. D'ailleurs, qui se prépare, dans 3 jours, je me dévoile. Et messieurs, voici que Dieu se dévoile devant 600 000 juifs de 20 à 60 ans, plus les femmes, les enfants, les vieillards, 3 millions environ. 3 millions de personnes, simultanément, voient Dieu leur parler. Ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas un tour d'abracadabra ou de magie. Ce sont des gens extrêmement sceptiques, extrêmement sérieux, qui ne veulent pas se faire embobiner. Il s'agit de prendre une Torah, c'est-à-dire le sens du monde. Ce sont des gens de très haut niveau. Et tous disent, on a vu Dieu. C'est très clair. On a compris le pourquoi, le comment du monde. Nous ne sommes plus des croyants, nous sommes des sachants, on a vu. Chose qui, durant l'histoire, ne s'est jamais plus reproduite, la Torah elle-même, dans Sefer Dvarim, va dire, demande dans les chroniques les histoires des peuples. Est-ce qu'il y a un peuple qui a seulement prétendu que Dieu s'est dévoilé au peuple, et le peuple a survécu? Dans aucune Bible au monde, tu as une histoire pareille, que Dieu s'est dévoilé, au peuple entier, il aura parlé, que tous voient, regardez, c'est moi. Dévoilement de la vérité absolue à un peuple. Toujours il y en a un qui vient, qui dit, Dieu m'a parlé. Ou je suis le fils de Dieu. Ou un copain à Dieu. D'accord? Mais que Dieu lui-même se dévoile et parle au peuple entier, jamais. Toujours il faut croire la personne. On croit que tu es le fils de Dieu, on croit que tu es envoyé de Dieu, mais on croit. Nous ne voulons pas être des croyants. Donc à la base, messieurs, on a un événement qui est unique dans l'histoire. Que s'il est vrai, effectivement, donc, on a la preuve comme quoi la Torah est vraie. La seule fois où la vérité absolue s'est dévoilée dans le monde. Il fallait bien une fois que dans ce monde d'obscurité, la vérité se dévoile une fois, qu'on ne soit pas complètement perdu. Donc la question est, qui me dit que c'est vrai? Peut-être ça a écrit, ça a été écrit a posteriori, 3000 ans plus tard. Un juif génial a pris un morceau de parchemin, il a commencé à écrire toute la Torah. Et s'est dit, maintenant il faut que je mette dans cette Torah maintenant le fondement que c'est vrai. Alors il raconte, nous étions sortis d'Égypte, on était au mont Sinaï, et nous tous avons vu Dieu se dévoiler. Et les juifs ont gobé cette histoire-là, et voilà, depuis on dit qu'on a une preuve, mais ça, il n'y a jamais eu. Si la preuve, elle a existé, vraiment, ça y est, on a la preuve, la preuve. Mais qui me dit que ça a effectivement existé? Comment nos ancêtres étaient prêts à se jeter dans le bûcher, sachant que c'est la vérité, au nom de peut-être un bobard? Réponse. Il est impossible, inconcevable, et c'est pour ça que cette preuve que j'amène ici, je l'amène rarement, parce qu'elle nécessite une raison pure, il faut faire un raisonnement pur, il faut être... C'est pas spectaculaire, c'est pas aussi spectaculaire que ce que nous faisons dans les séminaires où tu vois des trucs extraordinaires. C'est pas spectaculaire, mais c'est hyper solide, c'est indémontable. Mais c'est pas, je dis tout de suite, c'est pas spectaculaire. Il est impossible que ce texte eût été écrit a posteriori, inventant une histoire qui n'a jamais eu lieu. Admettons, je suis l'homme génial, il y a 2000 ans, qui écrit la Torah. De événement du Mont Sinaï, il n'y a jamais eu, d'événement de Dieu, il n'y a jamais eu. Et j'écris dans mon bouquin maintenant, voilà, nous, âme Israël, avons tous vu Dieu au Mont Sinaï, dévoilement de la vérité totale. Je fais une campagne de pub, j'édite mon bouquin, publication, je fais des interviews sur TF1, Antenne 2, le nouveau livre, voilà, extraordinaire, que nous dévoilons, qui était dans, on l'a découvert maintenant dans une grotte éloignée, archéologique, machin, enfin, pas trop difficile de faire une petite mise en scène. La Torah, comme quoi nous avons la vraie Torah, parce que c'est marqué dedans, qui a été donnée au peuple juif, en public, par Dieu lui-même, tout le monde l'a vu, il n'y a aucun doute là-dessus. Les juifs qui ne sont pas très facilement convaincables, surtout d'une chose pareille, commence à manger kasher, ta femme est interdite 2 semaines par mois, tu peux plus... Tout est légiféré, comment lasser ses lacets, comment se laver sous la douche, comment dormir, tout est légiféré. Si ça vient de Dieu, on prend. Si ça vient pas de Dieu, alors franchement, c'est bigrement enquiquinant. Donc on va vérifier. Qui me dit que ça vient vraiment de Dieu? Ben c'est marqué. Dieu s'est dévoilé à nous, nous tous, à Israël, au Mont Sinaï. Qu'est-ce que je fais? J'appelle mon papa. Papa. Il y a un bouquin qui est sorti, qui raconte que nous tous, à Israël, on a vu Dieu au Mont Sinaï. T'es au courant de cette histoire-là? Demande à grand-papa, à grand-père, t'appelles ceux qui savent, les anciens. Vous êtes au courant de cette histoire-là que Dieu s'est dévoilé à nos ancêtres au Mont Sinaï? Si c'est un canular, ça n'a jamais existé cette histoire-là. Pour que ça marche, il faut que simultanément, tous les papas et grands-papas du peuple juif mentent à leur enfant et qu'ils disent « Oui, c'est vrai mon fils, nous étions tous au Mont Sinaï, on a reçu ça déjà en tradition depuis nos ancêtres, que le peuple entier a vu Dieu au Mont Sinaï, on était 3 millions là-bas. » Or, c'est inconcevable. On ne peut pas faire un truc pareil. Que simultanément, tous les papas du peuple juif vont mentir à leur fils pour faire gober une histoire pareille.
Peut-être que ça a pris 200 ans, 500 ans.
Hein?
Peut-être que ça a pris 500 ans jusqu'à que tout le monde y croit.
Mais oui, alors il y a eu des discussions.
Des discussions, mais après 500 ans, ça s'oublie, il y en a un...
Ou faire gober un truc pareil. Le type, quand il sort son bouquin, qu'est-ce qu'on lui dit? T'as une preuve? Oui. C'est marqué, on a vu nos ancêtres. On vérifie, on dit, mais personne n'est au courant de cette histoire-là. On prend le bouquin, on le brûle. On le brûle. Et lui aussi, on le brûle. Tu me fais de gober une histoire pareille? On a vérifié, c'est faux, ce livre-là est faux. Nous voulons la vérité. Tu racontes maintenant... Si c'est vrai, c'est vrai, mais C'est faux, parce que personne ne courant cette histoire-là.
Mais les autres livres sont faux, ils existent, pourtant ils sont encore plus nombreux que nous.
J'ai pas compris.
Les autres religions,
c'est, ouais. C'est aussi... Jésus va au bord du lac Tibériade, il fait un miracle, il y a 12 pains, il y en a 12 000 pages, je ne sais plus les histoires là-bas qu'il y a, il marche sur l'eau, ok, il a fait des trucs. Et nous on raconte, et alors? C'est vrai, il a marché sur l'eau, et alors?
Non mais c'est-à-dire que c'est des supercheries, pourtant ça a marché, donc pourquoi la nôtre serait...
Mais pourquoi supercherie? Pourquoi supercherie? Jésus n'a pas marché sur l'eau?
Non, bien sûr, mais le fait que c'est fils de Dieu, etc., après qu'il en ait fait une religion,
mais
c'est
t'as pas compris ce que je dis. Le fondement de Jésus à son époque, il vient et il dit « Je suis le fils de Dieu ». Les gens ont cru en lui. Mais c'est une croyance, c'est pas une connaissance, il n'y a pas de preuve. Prouve-nous que tu es le fils de Dieu. Regardez, je suis beau.
Je marche sur l'eau.
Je marche sur l'eau. Je multiplie des pains. Mohammed, il vient, il dit, Dieu m'a parlé, prouve-nous. Regardez, on va faire la guerre djihad, on va gagner. Et il gagne. Mais ce n'est pas une preuve. C'est une croyance. Nous, on a une preuve. Le seul peuple au monde qui a une preuve, si c'est vrai, c'est la Torah. Donc reste à savoir, est-ce que cette Torah, elle a été inventée ou elle est vraie? Je dis, impossible d'inventer une chose pareille. On ne peut pas inventer un truc pareil. Tu ne veux pas un beau jour, tout à coup, faire sortir ce livre, voilà, regardez, c'est une tradition tellement essentiel qu'il y a un dévoilement de la vérité absolue, que c'est un truc que personne n'aurait pu a posteriori tout à coup dire et faire gober tout le monde. On l'a.
Non mais parce que là on part sur l'hypothèse qu'il y avait vraiment 600 000 personnes. Mais
si, c'est ce que le texte dit.
Attends, mais si, imaginons qu'en réalité ils étaient 10, qu'ils n'étaient pas 600 000, qu'ils étaient 10, qu'il y en a 9 qui sont assimilés, et puis ou même pas, que ça c'est même pas...
Mais alors d'où vient la tradition? Moi, mes ancêtres, quand le livre est sorti, on va dire que quelqu'un a écrit la Torah 1000 ans plus tard, d'accord? Le livre a été publié, j'ai appelé mon papa. Je n'ai même pas besoin de l'appeler. Il m'a dit depuis que je suis gosse. Tu sais, mon fils, Dieu s'est dévoilé au peuple entier au Mont Sinaï. C'est ce qui est marqué dans le texte. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre ton hypothèse, que c'est un type qui a raconté ça, et ce que dit mon père, ce que dit le livre, que c'était le peuple entier. Nous parlons maintenant que le texte dit que le peuple entier. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait un homme, et après il a commencé à raconter ça. Parce que le message qui est véhiculé dans le peuple, c'était le peuple entier. Tu comprends ce que je dis ou tu comprends pas ce que je dis?
Je comprends, ça peut être on pourrait dire que c'est inventé.
Comment tu peux dire que c'est inventé? Vas-y. C'est ce que je dis, c'est au niveau rationnel, c'est complètement béton, personne, mais c'est fin.
Que la personne qui a écrit le livre l'ait inventé et qu'elle l'ait raconté à son fils, que son fils ait cru, puis après ça s'est transmis, et aujourd'hui on pourrait être les descendants
au départ, c'était pas beaucoup.
Tu peux pas dire ça.
Le peuple existe depuis un certain temps. D'accord? Un beau jour, maintenant, le type raconte ça à son fils dans son village. Et le fils, il a fait une grande campagne. Même dans le village, la vérité, même dans le village, ça passe pas.
Ça pourrait partir d'un seul homme. Ça pourrait ne pas partir d'un peuple entier. Ça pourrait partir d'un seul homme qui a dit, on était un peuple entier. Mais en fait, il pourrait être qu'un seul homme au départ.
Et il va convaincre tout le monde que le peuple...
Il n'y a personne.
Il est seul. Et c'est ses enfants.
Tout est inventé. Donc lui, il est seul.
Oui.
Donc là, la seule personne qu'il faut qu'il passe le message, c'est son fils. Donc lui, là où il dit à son fils...
Que
ça s'est passé comme ça.
Qu'on était le peuple entier.
Voilà.
Le fils, un beau jour, il grandit, il a 20 ans, il dit « Papa, je comprends pas, t'es tout seul, et tu dis que nos ancêtres, c'est 600 000 au Mont Sinaï. Ils sont où les descendants des 600 000 ? Ça tient pas la route, votre truc. » Indémontable, mais il faut que ce soit rationnel. Il faut être rationnel droit. Indémontable. Maintenant, il est important de connaître cette preuve, parce que le Rambam continue et dit « Comment nous croyons les autres prophètes qu'il y a eu ?» 48 autres prophètes, qui n'ont pas fait. Dieu vient et il se dévoile. Comment on a cru aux autres prophètes? Grâce aux miracles qu'ils ont fait. Donc on croit au miracle, on croit au miracle. Dit le Rambam. Je vous le fais oralement. La Torah a de Moshe, a ordonné. Si vient demain un prophète et fait des miracles, prétend que des choses vont arriver dans le futur, elles arrivent effectivement. Et il te dit maintenant de faire la Torah de Dieu, de croire en la Torah de Moshe, sans la changer, sans rajouter, sans modifier, sans enlever. Tu dois le croire. Donc pourquoi je crois au miracle que fait le prophète, ultérieur à Moshe? Par Moshe. Moshe, je crois à lui, parce que j'ai vu Dieu. Et Moshe m'ordonne la Torah de Dieu, que je sais être vrai. Si demain vient un prophète et te dit, grâce à un miracle, crois en moi, on croit au prophète. À condition qu'il va dans le sens de ce que dit Moshe. Mais s'il modifie, il dit ne croit plus à Moshe, Moshe il s'est trompé, Moshe il faut changer, Moshe il faut arranger, alors on ne croit plus en lui. Parce que la seule raison pour laquelle je crois au prophète, c'est parce qu'il vient par la force de Moshe, qui a dit de croire en lui. Mais s'il me dit Moshe, il ne faut plus croire en lui, donc lui, pourquoi je croirais en lui? À cause du miracle, je crois pas au miracle. Donc c'est très bien cadenassé. Si quelqu'un vient et dit, genre, on change la Torah, regarde, je te fais un miracle, hop, 12 000 pains, on dit, fiche le camp. Parce que tu as dit d'aller contre la Torah de Moshe. Or, pourquoi je croirais en toi? À cause d'un miracle, je crois pas au miracle. Je veux bien croire au miracle, parce que Moshe m'a redonné. Mais si tu remets en cause Moshe, donc, de facto, il n'y a plus Moshe, donc je dois croire à ton miracle à cause du miracle, c'est pas une bonne raison. Et tout est cadenassé ainsi jusqu'à aujourd'hui. Messieurs, ça c'est la preuve. Mais, je répète, c'est tout à fait, c'est trop rationnel. Aujourd'hui, les gens veulent du spectaculaire, alors on a du scientifique et des preuves, prophéties, etc. Mais nous devons savoir quand même que le fondement juif, d'après la Torah, juif traditionnel depuis des millénaires. Oui, ta question.
Qu'il mettait les tefillines, enfin il faisait près de toutes les mitzvot, sauf qu'il prétendait être Mashiach. Mais il respectait entièrement toute la Torah.
Oui.
Seulement après qu'il y a...
D'après nos sources, Jésus n'était pas d'accord avec les rabbins de l'époque. Les grandes générations. C'était un Talmid Chacham, était élève de Rabbi Elazar ben Azaria. Mais il a voulu... Toute une histoire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, surtout pas sur Internet. Mais pour une raison X, Elazar ben Azaria l'a mis dehors. Et il voulait réintégrer. Rabbi Elazar ben Azaria plusieurs fois l'a remis dehors. Jésus s'est dit, cette fois, je vais, dernière fois que je tente de réintégrer. Et Rabbi Elazar ben Azaria s'est dit, ce coup-là, je le reçois. Mais vient Jésus, et Rabbi Elazar ben Azaria, il est en plein Kriat Shema, il ne peut pas parler. Jésus a vu, c'est comme ça, ok, alors, j'ouvre ma secte à moi. Maintenant, comme tu dis, il faisait la Torah, mais un tout petit peu différemment, contrairement à la vie des grands d'Israël. Or, il est marqué dans la Torah très clairement par Parashat Shoftim, tu écouteras ce que diront les juifs de ta génération sur le grand rabbin de chaque génération, et tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche, ni à droite. Le jour où tu as quelqu'un dans le peuple juif, qui qu'il soit, et il y en a eu des vingtaines durant l'histoire, qui ont dit on fait la Torah, mais on modifie un peu. Défense d'après la Torah de les écouter. On écoute les grands de la Torah. Les grands dirigeants spirituels qui sont, il y a le consensus des grands, des Talmid Chachamim, des spécialistes en Torah, il y a un consensus entre eux qui sont les super tops de la génération. Et on n'a pas le droit de bouger de ce qu'ils disent, ni à gauche ni à droite. C'est la continuation de Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Promesse et obligation de la Torah. Or, Jésus n'a pas été dans le sens de ce qu'ont dit les rabbins.
Et quel était le point controversé?
Je pense qu'il a voulu faire réforme du genre, mettons pas trop l'accent sur les détails petits, mettons plus d'amour entre les gens. D'accord? C'est à peu près le grand message de toujours. On dit quitte la Torah au nom de la paix, au nom de l'amour. Résultat, tu n'as pas de culture qui a fait plus de génocide que aime ton prochain comme toi-même. D'accord? La chrétienté. Il n'y en a pas au monde qui a fait autant de génocide. Les croisés, l'inquisition, les cosaques. Baou Hachem, on en a souffert pas mal. Plus tard, les évangélistes sont venus et ils ont commencé carrément à modifier. Ils ont passé le Shabbat au dimanche. Ils ont dit, on a la kippa quand on rentre dans la synagogue. Ils ont dit, ce qui marque cachot des Shabbats, c'est au niveau spirituel, c'est pas vraiment qu'il faut faire comme ça. Ils ont aboli toute la Torah. Comme font tous les mouvements qui quittent la Torah. Comment le mouvement réformiste, il a commencé. Enfin, une petite réformiste, ils ont commencé comment? Il y a 150 ans, ils ont dit, on veut mettre de l'orgue à la synagogue, lundi et jeudi, quand on sort la Torah. Les rabbins ont dit non. Pourquoi non? C'est marqué où qu'on peut pas mettre de l'orgue? C'est marqué. C'est parce que vous n'irez pas d'après les coutumes des goïms. Mais c'est quoi l'explication de cela? Ça c'est Chazal, ce sont les grandes générations qui vont dire c'est quoi les coutumes des goïms. Les grands rabbins des générations ont dit on ne met pas d'orgue à la synagogue, point. La formation dit nous on dit que oui, c'est marqué où que c'est interdit. Ok, ils ont commencé, ils ont fait leur mouvement. Et beaucoup de gens ont été dans ce mouvement qui étaient juifs tout d'un. L'orgue c'est pas si mauvais après tout. 150 ans plus tard, ils sont complètement out. Aujourd'hui, ma femme m'a raconté hier, elle a une cousine qui est en train de faire chouva, alors elle passe par le biais réformiste. Mais elle a dit, je sens pas le truc. Les femmes mettent la kippa sur la tête. Les femmes mettent les teffes, d'accord? Ça peut encore aller. Les mouvements réformistes ont autorisé il y a une dizaine d'années maintenant le mariage entre femmes. Entre femmes. Avec la même argumentation. C'est marqué où dans la Torah que c'est interdit? C'est marqué, tu connais ton interdiction, c'est marqué entre femmes. Entre hommes, c'est marqué, mais entre femmes, c'est marqué. C'est marqué. Vous ne ferez pas les horreurs de la terre d'Égypte, de la terre de Canaan dans laquelle je vous amène. C'est quoi ces horreurs? C'est pas marqué noir sur blanc. Chazal, les grandes générations ont dit, c'est entre autres la relation entre femmes. Mais vu qu'eux ne reconnaissent pas Chazal, les grandes générations, comme étant une autorité compétente à dire quel est le sens de la Torah, donc il dévie à n'importe quoi.
C'est ça, c'est la Torah orale.
Bien sûr, c'est la loi orale, c'est ça, la loi orale. La loi écrite m'ordonne de suivre la loi orale. Baruch Adonai, Elohim HaMelech HaMelech.